La Rose des Vents, deuxième part ce soir, avec l'histoire du Madagascar, des origines de son peuple à l'indépendance. Alors Daniel, de quelle période allez-vous nous parler plutôt ce soir ?
Nous nous intéresserons surtout à ce qui fait l'histoire de Madagascar avant son indépendance. Carrefour entre l'Asie et l'Afrique, l'île a connu plusieurs vagues de migrations successives à l'origine de sa diversité culturelle. C'est pourquoi il me paraît incontournable de s'arrêter en premier lieu sur l'histoire du peuplement de Madagascar. Des origines à nos jours, l'unité culturelle est ce qui fait le ciment du peuple malgache.
Alors, avec un tel brassage de population, Madagascar est-elle toujours restée unie ?
Au plan culturel, oui. Malgré plusieurs événements historiques qui auraient pu les diviser, les Malgaches n'ont jamais remis en cause l'existence d'une unité culturelle fondamentale transmise par leurs ancêtres. Cette unité caractérise d'ailleurs les Malgaches vivant à l'étranger.
Mais en Suisse, alors à Lausanne par exemple, qu'est-ce qui caractérise cette unité des Malgaches ?
Souvenez-vous, en septembre, nous avons accueilli le responsable de la chorale Zarampifiliana, une chorale malgache qui fait ses répétitions à Lausanne. Au-delà du chant, ces répétitions permettent aux Malgaches de Lausanne et de ses environs de se rassembler, d'entretenir des liens avec leurs racines et surtout de rester soudés.
Effectivement, c'est intéressant. Donc, vous parlez d'unité au plan culturel et identitaire, mais au plan historique et politique, qu'est-ce qu'il en est ?
Vous avez raison. À l'échelle politique, il en va autrement. Madagascar reste tout au long de son histoire déchirée par des divisions politiques nourries par des intérêts hégémoniques et économiques. Notre invité nous permettra de mieux comprendre ce phénomène.
Eh bien, on l'accueille justement. Bonsoir, Rana Ivo.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes arrivé en Suisse en 2001 comme étudiant. Vous êtes aujourd'hui chercheur au département d'informatique de l'Université de Genève. Et vous habitez Bienne.
J'habite Bienne, oui.
Voilà, toute la Suisse romande.
Oui.
Vous êtes d'origine malgache et vous avez aussi un penchant pour l'histoire, notamment celle du Madagascar. Alors, dans quelle mesure le fait d'avoir migré vous a rapproché de vos racines, de votre histoire ?
En fait, lorsque j'étais arrivé en Suisse, la première chose qui m'a frappé, c'est que les histoires qui sont de la Suisse et les histoires en Europe sont très bien documentées, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire de Madagascar. Et ce qu'on nous a appris à l'époque, c'était aussi une histoire qui était un petit peu, qui commençait aux années 1500. Donc, ce qui fait que d'où l'intérêt de mon côté de me passionner un petit peu plus sur l'histoire du peuplement de mon pays, on va dire. Ça m'a beaucoup intéressé.
Quel parallèle pouvez-vous tirer entre la diversité culturelle de Madagascar et celle de la Suisse ?
Ce que je trouve tout à fait intéressant ensuite, c'est la coexistence de plusieurs communautés, d'une diversité qui arrivent à cohabiter ensemble dans une ville ou dans le pays lui-même. Donc ce parallèle, je peux le voir par exemple dans la capitale Antananarivo, la capitale de Madagascar, où là, il y a aussi cette diversité culturelle qui existe, où des populations de différentes régions peuvent coexister pour vivre ensemble au sein d'une même.
Mais qu'est-ce qui caractérise le peuplement de Madagascar si on remonte aux origines ?
Si on remonte aux origines, l'histoire raconte que le peuplement de Madagascar était effectué par des peuplements pour avoir une terre vierge. C'est le peuplement des Austronésiens, des peuples qui arrivaient d'Indonésie, des peuples qui arrivaient de la Micronésie, Malaisie, du sud-est asiatique. Et donc, ils étaient venus à Madagascar pour s'y installer. Ils ont amené bétail et des plantations aussi pour pouvoir coloniser l'île. Et les dates ne sont pas encore si précises, mais on dit que c'est vers les moins de 1000 ans avant Jésus-Christ que ces peuples-là se sont installés. Et il est clair aussi que d'après certaines analyses génétiques, il y a des peuples qui sont venus d'Afrique aussi, qui peuplent Madagascar actuellement. Ouais.
On parle de diversité du peuplement, mais il y a également une grande diversité religieuse lorsqu'en fait a été habitée la péninsule arabique.
Oui, en fait, dans les années 600, après Jésus-Christ, dans l'ère chrétienne, il y a eu des migrations de la péninsule arabo-persienne qui étaient venues là-bas, du côté est de l'île. Ils ont installé des comptoirs sur la côté est pour pouvoir faire du commerce international à cette époque-là. Donc, ce qui fait que La religion musulmane reste encore, il y a des traces de la religion musulmane du côté ouest. Il y a la grande ville Majenga, où c'est vraiment à l'ouest qui est le centre de la religion musulmane, qui fait que, après, il y a l'arrivée des protestants vers 1810, qui, avec le royaume Mern, qui ont fait évoluer le royaume du centre et aussi implanté le christianisme à Madagascar.
Mais avant de parler du grand royaume Mern, comment se sont formés les petits royaumes, les premiers petits royaumes ?
En fait, ces petits royaumes se sont formés à partir de clans et après qui ont formé des dynasties et ils se sont unifiés petit à petit pour former des royaumes. Je peux citer seulement ici 4 grands royaumes. Hein. Il se peut qu'il y ait plus, mais en tout cas, les historiens se mettent d'accord pour ces 4 grands royaumes-là. Il y a le royaume de l'Ouest, qui est le royaume Sakala. Après, il y a le royaume de l'Est, qui est le royaume des Betsimsarak, qui, l'histoire raconte aussi que c'était un descendant de l'union d'un pirate et d'un chef, Betsimsarak, qui a fait la création de ce royaume Betsimsarak-là, de l'Est. Après, le royaume du centre, les Betsileu, et le royaume Mern, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est le royaume du centre, qui va après
se constituer en dynastie. Mais qu'est-ce que la formation de ce royaume a changé dans l'organisation politique de Madagascar ?
Du royaume Mern, vous voulez dire ?
Absolument.
Donc en fait, le royaume Mern a commencé à se former à partir du XVIe siècle hein, et petit à petit s'est constitué en un royaume beaucoup plus grand. L'idée du roi de l'époque était d'unifier d'abord le centre et après, à cause de la nécessité et du contexte, on va dire, international de l'époque, il devait faire des commerces à l'extérieur. Donc, ce qui fait que ce roi-là a voulu étendre son territoire proche de la mer pour pouvoir aussi participer au commerce international. Donc, ce qui fait que c'est ça qui, on va dire, poussait le royaume Mern à s'élargir et à s'unifier et à faire des conquêtes vis-à-vis de ses voisins, les autres royaumes que j'ai cités tout à l'heure.
Mais on dit que ce royaume ressemblait déjà en fait à un État-nation.
Oui, parce que c'était le royaume qui a pu, jusqu'au XVIIIe siècle, avoir un territoire assez large. On parle de 4/5 de Madagascar. Et aussi, c'est le royaume qui a su, on va dire, être les plus proches des Européens. Plutôt les Anglais, parce qu'à cet instant-là, il y avait les Français, les Hollandais, les Portugais qui voulaient s'installer à Madagascar, mais c'était plutôt les Anglais qui ont initialement, que le royaume Mern a choisi pour pouvoir réorganiser son État, réorganiser son armée et aussi avoir des éducations anglaises. On parle par exemple que la traduction, les mots malgaches étaient avant transcrits en arabe et à partir de l'hégémonie du royaume Mern, la langue malgache était transcrite en alphabet latin.
Donc Madagascar a toujours fait l'objet de nombreuses convoitises.
Bien sûr que oui.
Et à quand remontent les premières implantations européennes ?
Les premières implantations européennes datent des années 1500. Donc c'est Diego Diaz, le Portugais Diego Diaz, qui a découvert Madagascar. On parle que c'est lui qui a découvert Madagascar initialement. Et après, il y a eu l'implantation un siècle plus tard. Les Portugais étaient arrivés, donc qui ont chassé les Arabes de la côté ouest de Madagascar. Puis après, il y avait des convoitises des Hollandais, il y avait les convoitises aussi des Français et des Anglais. Et ce n'est pas encore tout à fait clair ce qui s'est passé au milieu, au XVIIe siècle, mais en tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que c'est plutôt les Anglais qui ont pu s'installer, puis les Français avec la colonisation.
Mais ouais, à la fin du XVIIIe, c'est donc l'épouse d'Adama qui a mis fin au règne anglais à Madagascar.
Bien sûr que oui. C'est elle qui a mis fin au règne anglais. Je pense plutôt par protectionnisme et non pas, vu que même avec Adama 1, le christianisme n'était pas encore autorisé, la pratique du christianisme, les baptêmes n'étaient pas encore autorisés pour les malgaches. Et c'est la reine Ranavala Ier, qui est sa femme, son épouse qui l'a succédé, qui a accepté l'ouverture à la religion chrétienne. Mais 6 années après, elle a stoppé la religion, je pense, par mesure de protection, contre les Anglais. Je pense qu'elle pensait que les Anglais allaient avoir la main sur le pouvoir, sur l'État malgache.
Mais après le règne britannique sur Madagascar, sont arrivés les colons français.
Oui.
Et dans quelle mesure est-ce que le pouvoir colonial français donc, a tenté de diviser les Malgaches ?
En fait, le pouvoir colonial français a tenté de diviser les Malgaches, puisque ils étaient arrivés en 1895 à Madagascar, et la priorité de l'époque, c'était d'éliminer, on va dire, de limiter le pouvoir de la monarchie qui était en place. Donc limiter le pouvoir de la monarchie signifiait qu'il fallait instaurer une politique qui pouvait diviser les Malgaches pour pouvoir mieux régner dans les différentes autres régions. Il y a même des cartes qui ont été sorties de l'époque qui montraient bien les séparations administratives imposées par les colons français aux différentes tribus de Madagascar.
Madagascar, comme d'autres pays d'Afrique, ont connu justement cette délimitation géographique.
Voilà.
Parce qu'on expliquerait qu'il y avait 18 tribus, selon les ethnologues du 19e siècle, alors que c'est apparemment, je veux dire, une information tout à fait erronée.
Oui, c'était prévu pour être un outil utilisé par les colons pouvoir mieux gérer le pays.
Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que justement cette présence coloniale, finalement, aurait permis de renforcer l'unité des Malgaches ?
Je pense que l'unité des Malgaches, à mon avis, s'est plutôt forgée à partir d'un héritage socio-culturel que je vous ai dit tout à l'heure, lié à l'Austronésie. Donc, ce qui fait
L'Austronésie, merci de nous préciser, en fait, quelles sont les origines des Austronésiens.
Les Austronésiens sont plutôt les personnes originaires d'Indonésie, de la Malaisie, de la Micronésie, donc du sud-est.
Qui sont arrivés essentiellement par la mer.
Ce sont des grands navigateurs, en fait, qui sont arrivés par la mer.
Et aujourd'hui, donc, quand on regarde en fait Madagascar avec toutes ses influences, est-ce qu'on peut parler toujours d'unité culturelle, comme on a pu en fait le vérifier au cours de l'histoire, même si on sait qu'il y a des dissensions politiques ? Et qu'est-ce qui fait le ciment des Malgaches finalement, que ce soit à Madagascar ou ailleurs ?
Je pense que ce qui fait l'unité culturelle, je pense que ça reste dans le sens où on voit quand même dans les différentes régions du pays que les traditions restent. Par exemple, le respect des aînés, par exemple, ça reste. Le sacré.
Et la langue.
Et la langue aussi. Et aussi la frontière, parce que nous sommes une île. Donc, ce qui fait que c'est quand même c'est la frontière géographique qui délimite assez souvent aussi qu'il y a une unicité, quelquefois, de culture qui reste et des héritages socioculturels qui restent.
Effectivement, une île avec des frontières naturelles. Merci beaucoup, Rana Ivo.
Merci à vous.
D'être venu parler de l'histoire de votre pays pour ce voyage historique. Et on rappelle que l'histoire du Madagascar se caractérise par une succession de clivages politiques. Mais l'unité culturelle reste un ciment du peuple malgache. On le constate aussi bien à Lausanne qu'à travers le monde. Et on vous propose tout de suite une chanson, Tongavare, qui se traduit par « Venez, venez ». Et puis cette chanson a une signification spéciale. Hein.
Oui, c'est une chanson qui motive en fait les habitants dans les villes de venir dans les petits villages pour enlever tout le stress, pour être plus proche et pour conserver cette unité malgache là.
Eh bien, c'est parfait pour nous à 18h40. On va écouter cette chanson. Venez, venez. Merci beaucoup, Rana Ivo. Et merci à Daniel pour la préparation de ce sujet.
Tungavare, tungavare, tungava mamangan, tanana misenai, tungava zam sala salawa, tungava manara kanyarabe, zem tunda makani. Tungavare, tungavare, tungava mamangan, tanana misenai, tungava zam sala salawa, tungava manara kanyarabe, zem tunda makani. Watin no da ularo sur suri. Sur sur mandera kanawa tinno da ular tip tipi tip tip mandera kanawa fansa vata miandena wane dela nunana, la nunana miaraka amindreo wakama. Zay any tanana, mpanzavatra miandrena ho ane. Dela nunana, la nunana miaraka amindreo wakama. Zay any tanana. Tsikobaka mba vistir zala, tsikobaka mba vatoy ny kabary, tsikobaka mba vanitradradraina fa irahiran'ireo vanty kely zay mpitendrika bosy. Tsikobaka mba vistir zala, tsikobaka mba vatoy ny kabary, tsikobaka mba vanitradradraina fa irahiran'ireo vanty kely zay mpitendrika bosy. Manako ako daholo reo olo asa malaza mangina. Manako ako daholo ny ambany lanitra ray manontolo a. Atsimbola na hitotra zany a, tena marina hoa, feona kabosy sy marakasy a. De mavitany zany a, tsimbola na hitotra zany a, tena marina hoa, feona kabosy sy marakasy a. De mavitany zany a. Tsy nitambatambazina na niterena fa tonga daholo ny tao an-tanàna. Miara miretonindreo hirahira, hirahira ataony vanty kely, hirahira vokatra ny tany.
Quelques notes de musique malgache pour nous accompagner en cette soirée avec le rendez-vous historique. C'était avec les Malgaches il y a quelques instants.